Frères et sœurs, les amis, 17e dimanche du temps ordinaire, le temps passe et les semaines assez rapidement. Nous sommes toujours, au moins quant aux évangiles de ces dimanches, dans les paraboles qui tournent autour du royaume des cieux. Alors, peut-être certains pourraient dire pourquoi tant de paraboles autour du royaume des cieux, c'est parce que c'est un thème et un sujet clé, tout à fait. Le Seigneur est venu pour inaugurer ce royaume qui a commencé sur la terre, par sa présence, bien sûr, mais qui se termine, c'est-à-dire dans l'ensemble de la création, c'est-à-dire au ciel, créé aussi par Dieu lui-même. Le ciel étant, grâce au mystère de l'incarnation, non pas satellisé autour de quelques étoiles, mais c'est le cœur même de Dieu. C'est le cœur du Christ. Et cette question du royaume taraudait déjà, si je peux m'exprimer de cette manière-là, le cœur des disciples lorsqu'ils ont demandé à leur maître et seigneur « Quand instaureras-tu ce royaume dont tu nous parles ?» Et pourquoi tant de paraboles qui tournent autour de ce sujet, le royaume des cieux? C'est parce qu'il est non seulement toujours en construction, mais que nous avons notre part à cette construction du royaume. Pas simplement par nos engagements, mais par l'être chrétien que je suis, entre autres par mon baptême. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur la notion de royaume des cieux, ou la notion de règne et de royaume, qui est un thème essentiel et fondamental. Alors, je voudrais m'arrêter sur ce premier livre des rois, la première lecture dans l'Ancien Testament qui nous est proposée dans ce 17e dimanche du temps ordinaire, sur cette personnalité clé, elle aussi, de l'Ancien Testament qu'est le roi Salomon. Au chapitre 3, versets 5 à 12, qui nous est proposé à accueillir, le roi Salomon est fraîchement couronné et il s'est rendu au sanctuaire de Gabaon, c'est comme ça que commencent les versets qui nous sont proposés. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Nous reviendrons sur la fameuse prière bien connue qui est restée dans la mémoire de tout le peuple d'Israël comme un modèle, cette prière de Salomon. Mais pour bien comprendre le texte, il faut en relire rapidement le contexte que je vais vraiment en quelques mots rappeler. D'abord, si on ne s'arrête qu'aux quelques versets qui nous sont donnés, on risque de trouver Salomon orné de toutes les qualités du monde, un véritable saint, alors que vous savez que la réalité de la situation est beaucoup moins flatteuse, puisque son accession au trône a été parsemée de péripéties peu vertueuses, des intrigues politiques, des assassinats, trois frères aînés qui briguaient la place et qui se sont entretués, donc des luttes fratricides, sa mère Bethsabée qui est venue en rajouter une couche, si je peux dire, au moment où un des survivants, des trois aînés, Adonias, savourait déjà le fait de être roi et remporté la victoire. Salomon fut sacré donc en grande précipitation, si l'on peut dire, et le peuple, prêt à tout, va l'acclamer, ce nouveau roi. Donc Salomon était parvenu à ses fins, il était sur le trône, et il ne restait plus qu'à liquider quelques opposants, ce qu'il fit sans tarder. Donc voilà, rapidement, la lecture. Donc, vous voyez que c'est loin d'être un saint, loin de là, qui se présente devant Dieu au moment où nous accueillons les versets qui nous sont donnés d'entendre. Alors, nous savons que la sagesse de Salomon, elle est gravée dans le marbre, mais posons-nous la question de savoir si cette sagesse, eh bien, elle n'est pas venue comme ça tout de suite. Comment est-ce qu'elle a été acquise? D'où vient-elle? Elle est un don de Dieu. Elle est un don de Dieu. Et au moment où il commence son règne, il va accueillir humblement, et c'est là où nous arrivons à la prière de Salomon, la sagesse qui ne va pas sans une certaine lucidité et un certain discernement. Car c'est là, j'allais dire, le côté sympathique de ce jeune roi, qui avait compris une chose, c'est que cette sagesse, c'est le bien le plus précieux du monde. C'est en cela qu'on voit qu'il y a une relation de cette première lecture de l'Ancien Testament avec l'Évangile dans la parabole de la pierre précieuse dont on va parler, cette perle, plus exactement, de ce trésor dont parle l'Évangile de Saint Matthieu. Donc il comprend que c'est là le trésor absolu et que Dieu seul détient non seulement les clés de la vraie sagesse, mais qu'il est la source de la sagesse. Ainsi, cette prière de Salomon au sanctuaire de Gabaon est pour nous, et elle doit être accueillie comme ça ce dimanche, comme étant un modèle absolu d'humilité et de confiance. Je suis un tout jeune homme incapable de diriger. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien. Commence en cela, gouverner ton peuple qui est si important. Acte d'humilité fondamentale, acte d'humilité d'une grande profondeur et d'une très grande sagesse. Et parce que, j'allais dire, Dieu a été touché par cette prière, que la réponse de Dieu va dépasser toutes les espérances de l'homme. Puisque tu m'as demandé ni de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif, etc., ce que nous avons lu, je te donne un cœur intelligent et sage, etc., etc. Et Dieu va combler Salomon. Malheureusement, la coupure des quelques versets que nous entendons ne donne pas l'ampleur de cette grande liturgie de la part de Dieu à l'égard du roi Salomon. La générosité de Dieu va s'exposer d'une manière incroyable. Pensez que Dieu se met presque à plat devant Salomon. Même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. C'est incroyable d'entendre ça, mis et placé dans la bouche de Dieu. La richesse, la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Alors, je crois que la première leçon pour nous, c'est combien l'humilité, un acte d'humilité, c'est-à-dire ce qui combat notre orgueil, est là aussi fondamental dans notre vie intérieure et notre vie spirituelle. Je crois qu'on ne peut pas mieux toucher le cœur de Dieu que par un acte profond d'humilité. Voilà pourquoi il m'arrive de vous en parler souvent, ou tout au moins de faire référence, parce que on voit très bien, et j'espère que vous le partagez avec moi, que Dieu a l'impression de fondre devant cette prière de Salomon, devant cet acte d'humilité. Je pense que si nous désirons, si nous voulons toucher le cœur de Dieu, ce n'est pas de faire des prières très compliquées, très belles, très savantes, tout ce qu'on voudra, mais c'est d'abord et avant tout un profond acte d'humilité, j'allais dire une humilité qui n'est pas simplement à exprimer verbalement, mais une humilité métaphysique, c'est-à-dire la totalité de notre être. On voit bien que Salomon, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas un grand saint qui se présente devant Dieu, mais parce qu'il a prié humblement, avec humilité, il a touché au plus profond le cœur de Dieu et il a été comblé en retour. Alors évidemment, ça fait penser aux publicains, aux pharisiens, nous le savons, il y a beaucoup de paraboles aussi sur l'humilité dans les Écritures, dans la Sainte Écriture et dans les Évangiles, mais aussi, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Et c'est pour nous, c'est le deuxième point, à mon avis, sujet essentiel de confiance, de voir qu'en définitive, quelle que soit la noirceur de notre péché, humblement le reconnaître, le confesser, en demander humblement pardon, mais d'une humilité qui déchire notre cœur pour déchirer à son tour le cœur de Dieu. Mais quand le cœur de Dieu se déchire, il nous comble. Amen.